Les matins de France Culture.
Bonjour Frédéric Seize.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
Le macronisme et l'épreuve du fer rouge.
Cette période de fin août, début septembre n'est pas seulement celle du spleen, de la fin des vacances. En politique, dans un début de quinquennat, c'est aussi le moment qui colle ensuite aux chaussures du président pendant 5 ans. À chaque fois, pour le nouveau chef de l'État, il y a l'euphorie du mois de mai, la torpeur du mois de juillet, et c'est à la rentrée que les Français se font une idée plus précise de l'exécutif à l'épreuve du pouvoir. C'est à ce moment-là, en fait, que les dirigeants sont marqués au fer rouge pendant 5 ans. Prenez Nicolas Sarkozy. Le 21 août 2007, il est élu depuis quelques mois et le bouclier fiscal est voté par sa majorité dans la loi pour le travail, l'emploi et le pouvoir d'achat.
Le cap, c'est le redressement de la France. Et je vais fixer un agenda du redressement. Je pense que nous devons...
Alors, ça n'était pas Nicolas Sarkozy, vous l'avez compris, mais son successeur, on va essayer de rentendre Nicolas Sarkozy dans quelques instants. C'était donc pour justifier le bouclier fiscal.
J'ai pas été élu pour augmenter les impôts, moi. Moi, j'ai été élu... pour réconcilier la France avec l'entreprise et l'usine. D'ailleurs, s'il suffisait d'augmenter les impôts pour qu'il y ait de la justice sociale, depuis des années qu'on augmente les impôts dans notre pays, gauche-droite confondue, on devrait être le pays le plus juste au monde.
Et à partir de là, il n'arrivera plus ensuite à se défaire de l'image d'un président des riches, péché originel que ce bouclier fiscal diront même certains de ses proches. C'est sans doute injuste, car par la suite, Nicolas Sarkozy a pratiqué la relance keynésienne au moment de la crise, mais le mal était fait, le fer rouge de la première année ne l'a plus quitté. Prenez François Hollande, cette fois-ci, même constat, et vous avez déjà eu un aperçu du son, en septembre 2012, il est sur le plateau de Claire Chazal.
Le cap, c'est le redressement de la France. Et je vais fixer un agenda du redressement. Je pense que nous devons inverser la courbe du chômage
à échéance de
d'ici un an.
Un engagement qui lui colle à la peau ensuite pendant 5 ans, une promesse qui résonne chaque mois au moment de la publication des chiffres du chômage. Par la suite, François Hollande a eu beau mettre en place des plans de formation, des contrats de génération, des emplois d'avenir, chaque nouvelle initiative rappelait en fait cruellement le raté de la promesse fondatrice du quinquennat, le fer rouge, là encore.
Alors, qu'en est-il d'Emmanuel Macron, Frédéric ?
Eh bien, même si le quinquennat a commencé avec la loi sur la moralisation, l'image du macronisme n'est pas encore vraiment fixée. Cependant, le cadre de la photo se précise avec l'annonce cet été d'une baisse des aides au logement et dans le même temps la promesse réaffirmée d'un allègement de l'impôt sur la fortune. Avec la publication hier d'une loi travail qui répond aux principales demandes du patronat, Emmanuel Macron prend le risque de marquer durablement son mandat de cette empreinte, celle d'une tendance à la ploutocratie qui favorise les plus favorisés. Hier soir sur France 2, le Premier ministre Édouard Philippe n'a d'ailleurs pas vraiment pu réfuter cette idée. Il était interrogé par Julien Bugier.
Sur la fiscalité, avec cette fameuse flat tax, le capital sera désormais moins taxé que le travail.
Je me permets de terminer mon argumentation et je vous répondrai évidemment complètement. Il faut que le travail paye. Il faut que ceux qui travaillent, quelle que soit leur activité, aient un gain de pouvoir d'achat.
Voilà, pourtant la vision de l'exécutif est cohérente, on peut lui reconnaître, on peut être d'accord ou pas, mais elle représente un projet de société, celui dit de la théorie du ruissellement, c'est-à-dire que favoriser le capital et ceux qui le possèdent finit par entraîner un cercle vertueux pour tout le monde. Le problème, c'est que cette vision n'est pas si clairement exposée. Au contraire, les éléments de langage continuent de laisser croire à d'hypothétiques contreparties pour les salariés. Il s'agit de créer de nouvelles sécurités pour les salariés, affirme le gouvernement dans ses éléments de langage, sans qu'on puisse vraiment trouver dans les 200 pages d'ordonnance où sont précisément ces nouvelles sécurités. Alors le pari est audacieux, il est celui d'un nouveau souffle économique aidé par la croissance mondiale, le Brexit et donc les réformes françaises, doublé par des efforts massifs sur la formation et une refonte de l'assurance chômage. Une grande transformation à plusieurs faces que la ministre du Travail surnomme le Rubik's Cube et qui pourrait bien effectivement tenir du casse-tête.